Père éternel, nous te prions pour que, comme Samuel l'a dit tout à l'heure, la vérité de ta parole pénètre nos cœurs et nous transforme, afin que nous soyons renouvelés dans notre foi, renouvelés dans notre confiance, renouvelés dans notre certitude quant à la venue, à la mort, à la résurrection de Christ, et quant à notre envie aussi de partager une vie aussi sainte que possible avec nos frères et sœurs en Christ. Amen.
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 Bonjour. Ce côté de la salle, Françoise, Natacha. On n'est pas très nombreux ce matin, mais quand même. Tournez dans vos Bibles à Philippiens 2. Ou 2 Philippiens, comme. Comme tu veux. Je vais commencer ce matin par être un peu vulnérable. Parfois, quand je me sens seul, ou je m'apitoie sur mon sort, ou que je suis déprimé en général, qui arrive parfois, je cherche en ligne d'autres missionnaires qui sont en France, avec qui sympathiser. Et je regarde sur YouTube leur présentation missionnaire aux églises, où je visite les sites web des agences missionnaires pour voir si elles sont des travailleurs en France. Et dans les rares occasions où je trouve quelqu'un, j'envoie un message. Et j'ai fait cela plusieurs fois, mais j'envoie généralement un message pour leur dire que j'ai trouvé sincèrement un message qu'ils ont prêché ou un article qu'ils ont écrit. J'ai apprécié la façon dont ils ont communiqué sur leur travail en France. Et je prie pour eux. Et que s'ils veulent avoir une conversation sur la vie et le ministère chrétien, j'aimerais rester en contact avec eux. Et j'ai fait plus de quelques connaissances de cette manière, mais personne n'est encore devenu un véritable ami ou un véritable partenaire. Même avant notre arrivée en France, il y a 4 ans maintenant, j'ai envoyé des messages à des pasteurs français pour essayer d'établir une sorte de relation. Et heureusement, j'ai pu rencontrer plusieurs de ces pasteurs, mais la plupart du temps, je n'ai fait que des connaissances superficielles avec eux. Cette absence d'amis est inhabituelle pour moi, car je suis dans le ministère chrétien depuis l'âge de 19 ans. Et jusqu'à notre arrivée en France, je ne m'étais jamais senti seul. Dès que j'ai dit à mon pasteur aux États-Unis que je croyais avoir été appelé à prêcher l'Évangile, j'ai été immédiatement entouré de mentors, d'enseignants et d'hommes qui m'ont formé et qui restent encore aujourd'hui mes amis. Et ces hommes qui connaissent les difficultés du ministère chrétien sont toujours mes confidents les plus proches, et je sais que je peux être sûr qu'ils aiment et se soucient de l'Église de Dieu plus que leur propre vie. Et je chéris ma relation avec ces frères. Et je ne sais pas si c'est pareil ici en France, mais dans l'Église protestante, dans les États-Unis, aux États-Unis, les anciens sont officiellement ordonnés. Je sais que c'est le cas ici avec l'Église catholique romaine. On est ordonné ou mis à part pour le ministère par un groupe de pères, pas pères comme les catholiques, mais pères, et autres mentors et professeurs. Et j'ai maintenant dans mon bureau un document, c'est mon certificat d'ordination, et il a les signatures de ses collègues, ses pasteurs, ses professeurs et mentors, qui me rappellent que je ne suis pas seul dans mon travail. Mais en fait, je me sens seul. Et je pense que beaucoup de pasteurs, missionnaires ou non, français ou non, ont ce même sentiment. Souvent, les pasteurs, les anciens, sont des hommes de principe qui refusent tout compromis et restent donc seuls dans leurs principes, attendant avec impatience l'arrivée de quelqu'un qui pense comme eux et qui veut travailler à leur côté. Et je suis sûr que vous pouvez penser à un ou deux pasteurs qui sont comme ça. Cette saison de prière et d'attente est tortueuse. Et aucune étude biblique individuelle ou isolement monastique ne peut guérir la blessure de n'avoir personne à ses côtés. Alors, pourquoi je vous raconte tout cela? Ce n'est pas pour que vous ayez pitié de moi ou de vos anciens, mais c'est pour souligner l'impérieuse nécessité de l'amitié et de la fraternité dans la vie de tout chrétien, et surtout de ceux qui sont chargés de guider l'Église de Dieu. Je vous rappelle que dans presque tous les cas où les apôtres ou les disciples ont été envoyés pour accomplir une tâche, ils l'ont fait en groupe. Et bien que Paul, l'auteur de notre texte de Philippiens, bien que Paul soit généralement considéré comme le meilleur missionnaire et le plus grand implanteur d'église, il n'a jamais été seul dans ses efforts. Barnabé, Jean-Marc, Timothée, Tite et bien d'autres, ils ont travaillé à ses côtés. Et chaque épître écrite par lui reconnaît la contribution d'autres chrétiens à son travail d'évangélisation et implantation des églises. La Bible est pleine d'exemples de cet effort de groupe et de cette camaraderie partagée par l'église primitive. Et elle est également pleine de directives claires concernant les relations des chrétiens les uns avec les autres. Au cours de notre étude de Philippiens, nous avons abordé un certain nombre de ces directives. Dieu a beaucoup plus à dire sur l'un et l'autre que sur la plupart des autres sujets du Nouveau Testament. Et c'est parce que la vie chrétienne est une vie de communion et de la fraternité. Notre texte aujourd'hui, c'est Philippiens 2, versets 19 à 30. Mais notre texte traite de cet aspect les uns les autres dans la vie chrétienne. Mais avant d'aller trop loin dans le message, lisons ensemble versets 19 à 30 de Philippiens 2. J'utilise la traduction La Colombe comme d'habitude. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son Père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous ayez appris de sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Je sais que cela fait longtemps, mais si vous vous souvenez du contexte et des messages précédents que j'ai prêchés dans Philippiens, vous vous souviendrez que nous venons de terminer une longue section sur l'humilité. Ça, c'est l'humilité de Christ, l'humilité de Paul et l'humilité de l'Église. En fait, je pense que j'ai prêché trois messages où le point était généralement « soyez plus humble ». Mais nous avons découvert que le secret de l'unité est l'humilité. Et le secret de l'humilité est le centrage ou le focus sur Christ. Alors, pourquoi Paul a-t-il mentionné, apparemment sans raison logique, des informations personnelles sur ces deux hommes, Timothée et Épaphrodite? L'apôtre Paul n'a jamais écrit de manière irréfléchie, ni même médiocre d'ailleurs. Et nous devons donc examiner pourquoi il interrompt son discours sur l'humilité et l'exemple de Christ en parlant de Timothée et d'Épaphrodite. Et je reviendrai à la fin sur les raisons pour lesquelles ce passage semble un peu intrusif. Mais pour l'instant, est-il possible que ces deux personnes soient des exemples supplémentaires de l'humilité que Paul espère voir incarnée par les Philippiens? Oui, je pense que c'est une possibilité. Et de nombreux commentaires bibliques suggèrent que Paul poursuit le discours sur l'humilité en faisant référence à ses collaborateurs. Il cite ici leurs divers mérites et qualités, et il est clair qu'ils lui sont utiles pour son ministère et qu'ils sont des partenaires précieux qui font preuve d'une grande humilité. Mais contrairement à certains, je ne crois pas que cette section soit une simple étude de cas sur deux personnages qui sont humbles. Nous pouvons certainement apprendre de leur exemple, mais je pense que la véritable raison pour laquelle Paul évoque ces hommes est révélée non pas dans ce qu'il dit, mais dans la manière dont il le dit. Lorsqu'il parle, Paul parle de Timothée, c'est presque comme si l'apôtre donnait des raisons ou même des excuses pour expliquer pourquoi il était nécessaire de garder Timothée à ses côtés. Il dit « Je n'ai personne qui soit comme lui. Je ne sais pas encore quelle est ma situation juridique. » Et sur le même esprit, il écrit à propos d'Épaphrodite qu'il a renvoyé aux Philippiens par nécessité, parce qu'après sa grave maladie, Épaphrodite était désespéré de rentrer chez lui à Philippe et d'être à nouveau avec ses frères et sœurs. Certains commentateurs pensent qu'il y a plus d'histoire derrière cela, et que ce passage révèle qu'un échange devait avoir lieu entre Timothée et Épaphrodite. La façon dont Paul écrit ici suggère qu'Épaphrodite, un responsable de l'église de Philippe, n'a pas seulement été envoyé à Paul avec des cadeaux et de l'aide de la part des Philippiens, mais qu'une relève de la garde était censée se passer et que Timothée serait relevé de ses fonctions aux côtés de Paul afin qu'il puisse rendre visite aux Philippiens. Mais Paul ne voulait pas cela. Il dit à l'église, « J'enverrai bientôt Timothée, mais pour l'instant, j'ai besoin de lui. C'est mon fils et je fais confiance à personne d'autre que lui. » Les Philippiens connaissaient Timothée intimement. Si vous connaissez la chronologie des voyages missionnaires de Paul, vous noterez que non seulement Timothée était avec Paul lors de l'installation de l'église à Philippe, mais que c'est en fait la première église que Timothée a eu le privilège de voir démarrer. Un pasteur écossais, Sinclair Ferguson, il a dit... Timothée était le plus jeune chrétien du groupe apostolique et il passait du temps avec les plus jeunes chrétiens du monde entier. Et si vous repensez à vos propres débuts en tant que chrétien, vous vous rendrez compte que les liens que vous avez formés à cette époque sont les liens qui durent pour toujours. Il est donc logique que les Philippiens souhaitent revoir Timothée afin d'être encouragés par leur frère bien-aimé dans la foi. Mais dans le texte, remarquez que lorsque Paul parle de Timothée dans ce passage, il le fait en listant ses qualités qui profitent à Paul lui-même, même si elles sont au service des Philippiens. Verset 19. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. » Il veut être encouragé par le rapport de Timothée. Verset 20 et 21. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ Jésus. Paul n'a personne près de lui comme Timothée qui partage son souci pour les églises. Et verset 22, vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'évangile. Il dit, vous le savez parce que Timothée était avec moi quand vous êtes devenu chrétien et qu'il ne m'a pas quitté depuis. Et enfin, verset 23 et 24. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. L'apôtre attend la résolution de sa situation juridique. Souvenez-vous qu'il est emprisonné maintenant. Et jusqu'à sa libération ou son exécution, il attend de Timothée qu'il reste avec lui. Et Paul communique avec beaucoup, 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 beaucoup de gentillesse, mais il est tout à fait clair que Timothée n'ira nulle part. Il a également de belles paroles à l'égard d'Épaphrodite. Au verset 25, Paul appelle Épaphrodite son frère, son compagnon de travail et son compagnon de combat. Ce sont deux hommes que Paul aime beaucoup. Mais nous devons aussi reconnaître une différence entre les deux. Ce n'est pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais Paul parle de Timothée différemment d'Épaphrodite. Épaphrodite est son frère, tandis que Timothée est son fils. Épaphrodite est manifestement un homme de Dieu et un trésor pour l'église de Philippe, mais son ministère n'est pas nécessairement celui de Paul. Il est originaire de Philippe et ses intérêts sont alignés sur ceux de cette église. En revanche, Timothée a non seulement servi aux côtés de Paul depuis le début, mais il a servi Paul lui-même en le soutenant dans son ministère d'évangélisation et implantation. Timothée, le jeune disciple de l'apôtre, s'est révélé inestimable pour l'œuvre. Cela nous amène au premier point de notre texte aujourd'hui. Une relation intime entre le ministre de l'Évangile et ses collègues est indispensable. Encore une fois, une relation intime entre le ministre de l'Évangile et ses collègues est indispensable. Je vous ai parlé de ces missionnaires que je contacte périodiquement. Et l'un d'entre eux est le pasteur d'une toute petite église près de la frontière belge. C'est dans Hierge, je pense. On est en contact depuis quelques semaines maintenant, mais il est déjà en train de devenir un partenaire de prière très, très cher. Mais cet homme, ce pasteur, il n'a personne qui travaille à ses côtés. Il se trouve au milieu de la forêt des Ardennes, et l'église protestante la plus proche se trouve à plus d'une heure de route. Il est venu comme assistant dans l'église il y a plusieurs années pour travailler avec le pasteur missionnaire, mais après peu de temps, le pasteur a pris sa retraite et l'a laissé seul. Cet homme, il m'impressionne par sa résilience et il m'encourage beaucoup, mais chaque fois qu'on parle, il me demande de prier pour que Dieu lui envoie des collègues. Ce pasteur a servi en France pendant 13 ans, toute seule. Et cet homme n'est pas un cas unique. Il y a des pasteurs partout en France, missionnaires ou français, des pasteurs partout dans le monde qui n'ont personne. Je dirais qu'il est pratiquement impossible d'avoir un ministère fructueux lorsqu'un seul homme porte le fardeau. Et nous voyons jamais dans l'Écriture un exemple de travailleur chrétien travaillant seul. Dans l'exemple de notre texte aujourd'hui, les collègues de Paul sont décrits avec une telle tendresse et une telle affection que l'on pourrait croire que ses collaborateurs étaient vraiment des frères et des fils de l'apôtre. Et pourquoi Paul a-t-il tant d'affection pour ses frères? C'est parce qu'il partage le lourd fardeau de la haute vocation d'être responsable du soin et de l'instruction du peuple de Dieu. Parlant d'expérience personnelle au service de l'Église de Dieu, j'ai rencontré des difficultés qui auraient été trop lourdes à porter si j'avais été seul. Et je ne parle pas seulement du fait d'être interpellé à la fin d'un message sur la signification d'un mot grec, Abel, ou de quelqu'un qui se plaint de la température de la salle. Mais vraiment, je parle du fait de marcher avec plusieurs personnes en tant que pasteur à travers des tragédies qui n'arrivent qu'une fois dans la vie, mais pour un pasteur, toutes les quelques semaines. Mais ça, c'est la vie typique d'une église et la vie typique d'un pasteur, d'un ancien. Encore, je propose que le type de relation que nous voyons entre Paul et Timothée et Paul et Épaphrodite est indispensable. Nous devons nous attendre à ce que nos pasteurs, nos anciens, aient un lien inséparable avec les hommes avec lesquels ils travaillent. Cette fraternité est une barrière et une forteresse contre le risque d'être écrasé par la tâche du ministère chrétien. Et il est bon que le pasteur ait des frères à qui se confier et à qui confesser ses péchés. Évidemment, je suis passionné par ce sujet et touché personnellement. Mais je crois vraiment que notre texte d'aujourd'hui nous éclaire sur l'absolue nécessité pour les pasteurs et les anciens d'être accompagnés dans leur travail par d'autres frères fidèles. Bref, passons à la suite. Au cas où vous penseriez que ce texte ne s'applique à vous, point 2, bien qu'elle ne se manifeste pas exactement de la même manière que la fraternité entre les ministres, la relation entre un ministre de l'Évangile et son Église est tout aussi importante. La relation entre un ministre de l'Évangile et son Église est tout aussi importante. Voyez comment Paul décrit le souci d'Épaphrodite pour les Philippiens et en retour, le souci qu'ils ont pour lui. Verset 26 de notre texte. Il désirait ardemment vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. C'était un homme qui aimait son peuple, Épaphrodite, pardon, un homme qui aimait son peuple et son peuple l'aimait en retour. Le souci d'Épaphrodite pour son église, même s'il est gravement malade, me rappelle la compassion d'une mère pour ses enfants. Évidemment, je pense en particulier à Kendall, qui, même lorsqu'elle est alitée pour cause de grippe ou n'importe quoi, elle se préoccupe toujours avant tout du bien-être de nos enfants. Et tout comme avec les enfants, il y a parfois des menaces extérieures et des dangers intérieurs dont il faut défendre l'Église. Alors, la relation d'un responsable avec son Église doit être comme les soins d'une mère pour ses bébés. Mais le lien entre le peuple et leur pasteur n'est pas nécessairement une relation entre pères. Le pasteur ne peut pas se confier entièrement à la congrégation parce que chaque personne dans l'Église n'est pas appelée à porter la responsabilité d'un pasteur. Et chaque personne dans la congrégation ne peut pas non plus sympathiser avec lui. En fait, les Écritures sont assez claires sur le fait que peu de personnes devraient devenir des enseignants dans l'Église parce que ceux qui enseignent seront finalement jugés avec plus de sévérité. C'est trouvé en Jacques, chapitre 3. Si nous utilisons la même analogie qu'une mère avec ses enfants, serait-il approprié pour une mère responsable de divulguer à ses enfants tous les détails de sa relation avec leur père ou de partager avec eux son stress financier? Bien sûr, non. Et de la même manière, un pasteur doit faire attention à ne pas imposer ses fardeaux sur la congrégation. Le poids de cette responsabilité n'est pas à la portée de tout le monde. Et le ministre ne peut pas se décharger de ses problèmes en les transmettant aux personnes dont il est censé s'occuper. Mais cela ne signifie pas que les anciens d'une église ne peuvent pas être complètement attachés à l'église que Dieu a placée sous, leur responsabilité. Regardez encore Épaphrodite, il désire ardemment les gens de Philippe, verset 26, et ils le soutiennent et il les soutient. Je pense que l'on peut dire sans risque que ce qui est illustré ici est en plus la relation normale entre un ancien et son Église devrait être une relation symbiotique. Et ça veut dire une relation qui est mutuellement bénéfique pour les deux parties. Mais cette relation entre les ministres, aussi un ministre et l'Église, cette relation doit être précédée d'un amour pour Dieu avant qu'il puisse exister un amour entre une Église et ses pasteurs. Car c'est Dieu qui crée les liens d'affection. Sans cette affection, nous chrétiens, pouvons commettre le péché de traiter nos anciens comme nos employés plutôt que comme ceux qui prennent joyeusement soin de nos âmes. Parfois, les églises, les chrétiens pensent à tort que parce qu'elles ont suivi un processus démocratique pour élire l'ancien à son poste, les anciens doivent en quelque sorte représenter les intérêts des membres de l'Église plutôt que les intérêts de Dieu. Et ce sentiment peut briser la communion entre une Église et ses responsables. Mais il est clair dans notre texte que les Philippiens n'ont pas ce problème. Nous voyons que des hommes comme Épaphrodite, qui souffrent pour l'amour de l'Évangile et de son Église, sont uniques et chéris. Et Paul le distingue aux Philippiens et leur commande de l'honorer, lui et les hommes comme lui. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Considérons l'intimité, avec laquelle Paul parle de Timothée et d'Épaphrodite, ainsi que l'intimité d'Épaphrodite avec les Philippiens et l'exemple qu'il nous donne. Je pense qu'il serait juste de dire que, un, vos pasteurs ont besoin de ce type d'amitié. Vos anciens, nos anciens, ont besoin de ce type d'amitié. Et deux, vous avez besoin de vos pasteurs. Et trois, vos pasteurs ont besoin de vous. Nous, chrétiens, on est un peuple dans le besoin. Ainsi, en ce qui concerne la façon dont vous pouvez... On peut appliquer ceci à votre propre vie chrétienne. Vous devriez, un, prier pour que vos anciens trouvent des compagnons et aussi encourager vocalement vos anciens à forger des amitiés avec d'autres ministres. Deux, vous devez ouvrir vos cœurs à vos pasteurs. C'est bizarre, je sais, mais vous devez ouvrir vos cœurs à vos pasteurs. Confiez-vous à eux. Posez-leur des questions sur la Bible, bien sûr, c'est normal, mais aussi demandez-leur de sages conseils. C'est leur travail et leur joie de répondre à vos besoins. Et vous avez besoin d'eux parce qu'ils sont des conseillers envoyés par Dieu. Et trois, ayez une véritable préoccupation pour vos anciens. Franchement, malheur à nous si nous traitons nos pasteurs comme des employés plutôt comme des bergers. Il faut s'efforcer d'alléger le fardeau de votre pasteur, de votre ancien, vos anciens, et de faire en sorte que son service soit une joie. Aux États-Unis, j'ai connu beaucoup d'hommes qui se disaient pasteurs, certains bons, d'autres moins. Mais ces hommes attendaient simplement qu'une meilleure occasion se présente pour quitter leur église et passer à la suivante parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas aimés par l'Église, par leur Église. Ne laissez pas cela se produire avec les hommes que Dieu vous a donnés. Aimez-les et montrez-leur que vous les aimez. Pour conclure, ce petit passage apparemment intrusif au milieu du discours de Paul n'est en fait pas du tout éloigné du sujet de l'humilité. Il relie parfaitement les sections précédentes et suivantes en fournissant une illustration de l'humilité et de l'unité qui ont occupé la majeure partie de ce chapitre. Et il prépare le lecteur à la section suivante qui traite de l'antithèse de Timothée et d'Épaphrodite, c'est les faux docteurs dont nous parlerons à la prochaine fois. Mais surtout, le Saint-Esprit n'a pas manqué de ponctuer ce passage d'un mandat très important. Et c'est dans les versets qui précèdent et suivent immédiatement notre passage. C'est le verset 18 de chapitre 2 et le verset 1 de chapitre 3. Verset 18, il dit « Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Immédiatement après notre texte aujourd'hui, chapitre 3, verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, mes bien-aimés. » Nous nous retrouverons dans ce monde, dans le prochain. C'est Paul qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Réjouissez-vous, mes frères, nous sommes unis dans la tâche de servir le Seigneur. Mais on ne peut pas faire cela tout seul. En tant que chrétien, on n'est pas chacun une île individuelle, autosuffisante, et qui n'a besoin de rien, de personne. Contrairement à ce que j'entends de la part d'un grand nombre de personnes qui se disent spirituelles, vous, je veux dire, nous et notre christianisme ne suffisent pas. Nous et notre Bible ne suffisent pas pour prospérer dans cette vie. En fait, la Bible dit clairement que la vie chrétienne doit être vécue dans la communion et la fraternité avec nos frères et sœurs. Évidemment, nous avons vu aujourd'hui que l'apôtre Paul n'était jamais loin de ses compagnons, même en prison. Mais aussi que Jésus lui-même était constamment entouré de ses disciples. Et en parlant de Jésus, la Trinité est l'exemple éclatant de la solidarité et de la communion éternelle que Dieu garde avec lui-même. L'unité et la communion sont manifestement des choses auxquelles Dieu se soucie beaucoup. Le Seigneur Jésus, qui est mort et ressuscité pour que les pécheurs perdus soient sauvés, était le plus grand des compagnons. Il est maintenant le plus grand des compagnons. Lui aussi, bien qu'il soit éternellement en communion avec le Père et le Saint-Esprit, il s'est confié à ses disciples et ceux-ci se sont entièrement confiés à lui. En nous donnant à Christ, nous nous donnons à ceux qui aiment Christ. Enfin, priez pour que le lien tissé entre Christ et son Église le soit aussi entre nous. Amen.